Bonjour tout le monde, bienvenue. On est content d'être là ce matin encore pour se réjouir en Dieu notre Sauveur et pour rencontrer, louer le Seigneur et entendre sa voix, n'est-ce pas? Donc, on est dans la série sur l'espérance du croyant et c'est le troisième message. Qu'attends-tu de ton avenir? Et puis, le verset thème de la série est tiré de Romains 15, 13, que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vais juste vous résumer ce qu'on a vu à date. On a vu la définition de l'espérance. L'espérance, à la différence d'un souhait ou d'un espoir, l'espérance est une assurance ferme, une certitude de quelque chose qui est absolument certain d'arriver. Alors ça, c'est un non-sens, humainement parlant. C'est impossible d'être absolument certain de demain, et laisse faire une semaine ou un an ou 10 ans. On peut avoir des idées, on peut avoir des projections, des prévisions, mais une certitude absolue, impossible. C'est pourquoi c'est Dieu qui est l'auteur de notre espérance chrétienne. Il n'y a pas d'espérance en dehors de Dieu. Amen. La vraie espérance biblique, c'est une certitude, une assurance de ce qui va arriver. Ce n'est pas « j'espère que », c'est « ça va arriver » et est-ce que ça produit dans mon cœur, c'est l'espérance. C'est un peu comme la foi. Hein? C'est difficile de départir la foi avec l'espérance. La foi et l'espérance sont très proches ensemble. On lit dans Hébreux 11 sur ce qu'on appelle les soi-disant héros de la foi. Ils marchaient par la foi de ce qui allait arriver, l'espérance d'avoir un héritage, une ville éternelle, hein, une cité éternelle, comme Abraham, par exemple. Donc, l'espérance et la foi sont très semblables, mais l'espérance est vraiment toujours portée vers l'avenir. Alors que la foi, bien, si vous avez eu foi que Christ est mort à la croix pour vous, c'est quelque chose qui est arrivé il y a longtemps. Ça, c'est la foi. Donc, on pourrait peut-être dire que l'espérance est un aspect de la foi. Mais c'est toujours porté vers l'avenir. Et cette espérance-là est impossible sans Dieu. Et Paul dit, autrefois, n'oubliez pas que vous étiez dans le monde sans Dieu et sans espérance. Ça devrait nous donner de la compassion, frères et sœurs. La compassion, non pas le mépris, mais la compassion pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils ont un semblant d'espérance. L'être humain se donne des espoirs. L'être humain ne peut pas vivre sans espoir. On l'a vu ça. Et dans la série à date, on a vu premièrement quelle est l'espérance du chrétien. On est toujours dans ce premier point-là. L'espérance d'un corps ressuscité, transformé. On va déballer encore ça ce matin dans un autre passage. On a regardé ça à travers 1 Corinthiens 15 et Romains 8 en partie. Et ce matin, on va aller dans 2 Corinthiens chapitre 4. Les autres aspects qu'on va voir plus tard, c'est l'espérance de recevoir un royaume éternel et l'espérance d'une relation épanouie avec le Christ. Mais ce matin, on continue avec l'espérance d'un corps ressuscité, transformé. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est l'espérance de la résurrection. Quelle différence que ça fait dans ta vie? Vraiment. Vis-tu du stress, la pression? Connais-tu de la détresse, l'anxiété, le rejet des autres, peut-être à cause de Christ, le découragement, l'épuisement? Oui, j'en suis persuadé que tu connais tous ces éléments de la vie et tu es normal. Toutes ces choses nous arrivent à divers moments de notre vie Et Paul a connu plus que son lot de ces choses-là, et pourtant, il persévérait, il gardait courage. Dans cette lettre, pardon, aux Corinthiens, le deuxième, on apprend qu'il avait été impliqué dans une situation conflictuelle avec l'Église qu'il avait fondée, où son caractère et son ministère étaient attaqués, avaient subi des attaques virulentes de la part des gens qui s'étaient infiltrés dans l'Église, des faux apôtres, et qui dénigraient Paul, qui parlaient contre Paul. On a parlé des conflits dernièrement, hein, dans la série des conflits. Y a-t-il quelque chose qui gruge plus, qui est plus décourageant qu'un conflit qui s'enflamme et qui s'envenime? Donc, Paul est au milieu de cette situation-là, et il écrit la deuxième lettre aux Corinthiens. Dans cette lettre, Paul se voit obligé, parce que quand vous étudiez une lettre, vous étudiez une partie des Écritures, je fais une parenthèse, il faut toujours essayer de regarder c'était quoi le contexte dans lequel la lettre a été écrite, la date, l'histoire derrière, qu'est-ce qui se passait. Dans cette lettre-là, il y a cette situation-là, l'Église de Corinthe, et Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il se voit obligé, malgré lui, de défendre son apostolat, de dire que je suis un apôtre de Jésus-Christ contre les fausses accusations. Il ouvre son cœur aux Corinthiens. C'est vraiment particulier cette lettre-là de 2 Corinthiens. On voit ça nulle part ailleurs dans l'Évangile, dans la Bible. Paul, dans ses lettres, il va ouvrir son cœur aux Corinthiens. Il va leur dévoiler tout ce qui se passe dans sa vie, toutes les souffrances, toutes les choses qui le troublent, mais aussi la source de sa joie et de son courage dans le service pour le Seigneur. Le résultat est un exposé magnifique et édifiant pour nous du cœur d'un homme de Dieu que le Seigneur employait non seulement par son enseignement, mais par sa personne, parce que le Seigneur faisait en lui à travers ça. Et une partie vraiment essentielle de cette transformation de Paul était son espérance dans la résurrection. Et ce matin, on va s'arrêter un petit peu plus en détail sur cette espérance et qu'est-ce qu'elle produisait dans son cœur et dans sa vie. Fait que je vous invite à tourner avec moi. On va inviter Laurence à venir faire la lecture pour nous, sauver ma voix un petit peu. 2 Corinthiens, puis je vous invite vraiment à ouvrir vos Bibles ou vos téléphones, vos tablettes. 2 Corinthiens, au chapitre, on va être au chapitre 4. Et à partir du verset 7, veux-tu venir, Laurence? Oui, c'est pour l'enregistrement.
Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.
Excellent. Merci beaucoup, Laurence. Super. Prions. Notre Dieu souverain créateur, nous sommes devant toi ce matin, devant ce Dieu immortel, invisible, trois fois saint, et nous sommes, Seigneur, à ton écoute. Nous voulons que tu parles à travers ta parole et ton esprit à nos cœurs. Seigneur Jésus, bon berger, fais silence dans nos cœurs de toute autre voix et viens parler à notre cœur. Oui, Saint-Esprit, on t'invite maintenant à nous révéler la pensée intime du Père. Prends le contrôle de cette rencontre. Que ta parole porte fruit dans nos cœurs. Pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, ici, ce qu'on va voir ce matin, c'est la phrase sommaire, « Portez ton attention sur l'espérance d'un corps ressuscité, transformé, produira courage et une plus grande ambition à plaire au Seigneur dans le présent. » Phrase sommaire. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est trois points. Premièrement, le ministère de Paul, la puissance extraordinaire de Dieu se manifestant à travers un vase d'argile. Deuxièmement, la source de sa persévérance, l'espérance. Et troisièmement, ce que l'espérance produit dans le cœur de Paul, le courage de poursuivre la mission et une ambition renouvelée pour plaire au Seigneur en tout. Donc, le premier point, le ministère de Paul. Paul dit dans chapitre 4, et suivez avec moi s'il vous plaît dans vos Bibles, « Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Quel trésor? Bien, il faudrait exposer les deux autres chapitres qui sont d'ailleurs des chapitres que j'affectionne incroyablement, où ce que Paul va faire la distinction entre l'ancienne alliance et la nouvelle. L'ancienne alliance, c'est l'alliance de la lettre qui produit la mort, et la nouvelle alliance, c'est l'alliance de la vie qui est glorieuse et qui est de l'esprit. Et il dit que c'est la gloire de Dieu qui est reflétée sur la face de Christ que nous portons dans nos cœurs. Écoutez, c'est ça un trésor, la présence du Christ ressuscité dans notre cœur et le ministère de cette nouvelle alliance-là que nous avons, c'est un trésor immense. Mais il dit, nous le portons dans des vases faits d'argile. Pour que la puissance extraordinaire de Dieu soit manifeste et non notre propre capacité. Donc, on disait tantôt que Paul, il fait une défense de son apostolat dans cette épître. Mais tout ce que Paul va dire, ce n'est pas pour se mettre en avant, mais plutôt mettre Christ en avant. Un trésor dans un vase d'argile. Donc, c'est quoi la nature du trésor? La présence glorieuse de Christ et son message de réconciliation. C'est ça le trésor, la bonne nouvelle. Ça, c'est la nature du trésor. Et la nature du contenant, faible, méprisable. Paul fait référence ici au vase de terre cuite hein, qu'on connaît dans ces temps-là, dans ces époques-là, que tout le monde avait. C'était des vases d'usage commun, des vases qui pouvaient servir à n'importe quoi, même sortir les excréments de la maison. C'était juste un vase normal. Aucune valeur en soi. Un vase en terre cuite, en argile, qu'on pouvait facilement remplacer si on brisait. Aucune valeur en tant que telle, faible, méprisable, mais qui contient un trésor. Et savez-vous quoi? Il y a des gens, dans ce temps-là, on a appris que des gens cachaient des trésors dans ces vases-là. Justement, pour que si un voleur arrive dans la maison, il ne pense pas de regarder là-dedans. Voyez-vous, c'est incroyable. Et des fois, les gens enfouissaient ces vases-là. On a l'exemple des manuscrits de la Terre morte qui ont été cachés dans les cavernes, dans des vases d'argile. Donc, le vase elle-même, c'est rien. Mais ici, c'est le premier d'un ensemble de paradoxes qui va... paradoxe, c'est quelque chose qui semble contradictoire, hein, mais qui ne l'est pas. Donc, le premier paradoxe dans la vie de Paul, c'est qu'il transporte un trésor, mais dans un vase d'aucune valeur. Hein? Mais le trésor, lui, il est important. Et peut-être que tu te dis des fois, « Ouais, moi, je ne suis pas fort. Je n'ai pas de la capacité spéciale pour servir Dieu dans sa mission. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de regarder à ton extérieur, au contenant, plutôt qu'au contenu. Mais le message de Paul, c'est que tu transportes un trésor inimaginable dans ton cœur, la présence glorieuse de Christ et son évangile. Et tout comme avec Paul, Dieu peut manifester sa puissance extraordinaire à travers toi. Et plus tu es faible, plus ce sera le cas. C'est ça le paradoxe. Paul a dit, hein, lorsque je suis faible, que je suis fort. De quoi il parlait? Faible, humainement parlant, physiquement, là, même émotionnellement. C'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Fait qu'il dit, je me glorifie dans les situations où je suis faible. Parce que la puissance de Christ se manifeste. Il leur a fait remarquer que Dieu n'avait pas choisi beaucoup de gens super riches ou super doués dans le premier épître qu'il a écrit aux Corinthiens. Il dit, frère, gardez-vous là. Entre vous, là, Dieu a choisi des gens faibles, des gens qui n'avaient pas beaucoup d'instructions, qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Pourquoi? Pour confondre les choses de ce monde. À travers la puissance de Christ, à travers la puissance de Dieu. Et Dieu fait ça. C'est un thème qui traverse les Écritures. Dieu choisit le petit David contre le Goliath. Dieu choisit le deuxième né plutôt que le premier qui avait toutes les avantages. C'est constant à travers les Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu veut se glorifier dans notre faiblesse. Jésus a choisi des hommes de condition humble pour ses disciples, n'est-ce pas? Il n'est pas allé dans les synagogues à Jérusalem ou à Rome pour choisir les plus super doués, les gars les plus capables. Il a pris des pêcheurs, des gars humbles, de conditions humbles, du milieu surtout rural. Et donc, on a une série de paradoxes que Paul nous donne pour présenter son ministère. Deuxième paradoxe, ici au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. » Dans la version du Sommeur, il dit, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. sous pression, mais pas réduit à l'extrémité, pas écrasé. C'est un peu comme un ballon de fête. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois, après les fêtes, là, des enfants ou peu importe, là, vous aimez ça, écraser les ballons. Moi, j'aime ça. Puis, je vous l'avoue. Mais hein, des fois, on essaie d'écraser un ballon, puis là, l'air, elle va d'un bord. On met le pied, là, l'air, elle va de l'autre bord. Pas moyen d'écraser le maudit ballon. C'est ça, l'affaire. Paul, il dit, on est pressé, mais pas écrasé. C'est un paradoxe. Il vivait de la pression, Paul. Pensez à son arrestation à Jérusalem, si ce n'est pas une situation que tu es sous pression, là. Il est à travers la foule. Et là, il prêche à la foule, puis là, ils veulent eux autres le tuer. Et puis les Romains sont en arrière. Ouais, on ne sait pas si on devrait le protéger ou le tuer, là. Il est pressé. Il est pressé, il est sous pression, mais pas écrasé. Pourquoi? On va le voir tantôt. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit au verset 8, « Dans la détresse. » Hein? Vous avez ça, verset 8? « Dans la détresse, mais donc dans le désespoir. » Dans la version Sommer, « désemparé, mais non dans le désespoir. » Qu'est-ce que ça veut dire, « désemparé » Monsieur Paris, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi « désemparé » OK. Non, c'est pas « réparé ». « Désemparé », ça veut dire « tu n'as plus de moyens ». Tu te trouves dans une situation, là, tu es démuni, tu ne sais plus quoi faire. T'es comme, c'est quoi qui va se passer? Je ne sais pas quoi faire. J'ai aucune idée. Ça vous arrive d'être dans une situation comme ça? Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive dans des situations comme ça. Des fois, avec un patient, c'est quoi je vais faire? Et je suis désemparé. Et je suis dans la détresse. Ou dans, par exemple, Paul. Hein, il prend le bateau pour aller à Rome. Hein? Puis qu'est-ce qui se passe? La tempête frappe. La tempête ne lâche pas. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Et là, il dit, les matelots, ils jetaient la cargaison par-dessus bord. Après ça, ils ont jeté les gréments, là. Comment est-ce qu'on dit ça? Les agrès du bateau. Merci, mon frère. Et puis, après ça, il n'y avait plus de moyens. C'est marqué qu'ils perdirent tout moyen. C'est ça d'être désemparé. C'est dans le bateau, la tempête, tu as fait ce que tu pouvais, tu as baissé la voile, ils ont mis les ancres à la main, ils ont tout fait. Puis après avoir tout fait, là, ils n'ont plus de moyens. Tu te sens-tu comme ça des fois? Désemparé, mais Paul dit... Non, désespéré. Alors, est-ce que c'est possible d'être désemparé, mais pas désespéré? Oui, c'est possible. C'est possible. Paul, il dit dans ce contexte-là qu'il avait perdu tout espoir. Hein? Il dit ça dans Actes. Nous perdions tout espoir d'un point de vue humain. D'un point de vue humain. Mais il n'était pas désespéré. Pourquoi? À cause de la puissance de Dieu. Persécuté, au verset 9, persécuté, mais non abandonné. Paul a certainement vécu dans sa vie son lot de persécution et d'abandon douloureux. Hein? Il dit, la première fois que j'ai eu à me présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné. Wow! Paul est persécuté, là. Il est en cours, là. C'est au risque et péril de sa vie qui va être jugé devant l'empereur parce qu'il a appelé à Néron, là, il en a appelé à César. Et là, il dit, tous m'ont abandonné, mais il dit qu'il ne leur soit pas tenu rigueur. Il dit dans le même passage de Timothée 4, il dit, Démas m'a abandonné ayant aimé ce présent siècle. Mais David dit, si mon père et ma mère devaient m'abandonner, quoi? L'Éternel me recueillerait. Psaume 27, 10. Fait qu'il y a une série de paradoxes. Sous pression, mais pas réduit, pas écrasé. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Un autre, au verset 9, abattu, mais non perdu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le mot abattu, dans le grec, apparemment, ça veut dire terrassé par des coups. Terrassé par des coups. Ça peut être littéral ou ça peut être figuratif. OK? Figuré. Mais non perdu, ça veut dire anéanti. C'est comme l'image de à la boxe, tu reçois beaucoup de coups, tu tombes, mais tu n'es pas KO. Tu te relèves. C'est ça que Paul dit. On pourrait penser qu'il s'agisse de nombreuses occasions où il a été fouetté ou battu, mais je crois qu'il fait référence surtout à un découragement intérieur. Il y a un combat intérieur contre Satan, contre le monde, contre sa propre chair. Il y a des occasions dans la vie chrétienne où tu as juste le goût de tout lâcher. Hein? Tu as juste le goût de tout lâcher, c'en est assez. La vie t'a asséné des coups durs, un coup après l'autre, et tu es abattu. Est-ce que ça peut t'encourager ce matin que Paul s'est senti comme ça? À plusieurs reprises, l'apôtre Paul s'est senti comme ça. Mais il dit, non, perdu. Abattu, mais non, perdu. Et ensuite, portant la mort de Jésus dans son corps, verset 10, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, mais la vie également. Un autre paradoxe. La mort, afin que la vie soit aussi manifestée dans notre corps. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. De quoi il parle? Bien, si on veut que la puissance et la vie de Jésus se manifestent, il faut quoi? Se mourir à soi-même avec Christ, hein? Jésus a dit, prends la croix et suis-moi. Ça veut dire, quoi prends la croix? Ça veut dire, dis non à toi-même, renonce à toi-même, meurs avec moi à la croix, et là, tu vas revivre en nouveauté de vie. C'est la vie de l'Esprit. Portant la mort de Jésus dans notre corps, c'est intéressant parce que il y a deux mots pour mort en grec, apparemment. J'ai lu ça dans le commentaire de John MacArthur. C'est qu'il y a Thanatos. C'est là qu'on prend le mot thanatologue, hein? C'est celui-là qui embaume les corps, là. Thanatos, en grec, ça veut dire mort. C'est l'événement ou le moment de la mort, ou l'état d'être mort. Mais il y a un autre mot qui est traduit mort, c'est nécrosis, hein? Qui est d'où ce qu'on tire notre mot nécrose. Et ça, c'est le processus de mourir. Et c'est ce mot-là que Paul utilise ici. Là. Fait qu'il dit, on porte toujours, partout, dans tout lieu, dans notre corps, le fait qu'on meure avec Christ à tous les jours, partout, là, je suis en train de mourir avec Christ, afin que la vie de Christ soit manifestée en moi. Vous me suivez? C'est pas une fois pour toutes, là. Oui, il y a un moment dans ta vie où il faut que tu acceptes de mourir avec Christ à la croix, mais c'est continuel, c'est à tous les jours. Jésus a dit, prends ta croix tous les jours et suis-moi. Tous les jours. Donc, on a la vie de Paul, son ministère présenté dans un ensemble de paradoxes, de choses qui semblent contradictoires. Et toutes ces choses-là, on a un « mais ». Voyez-vous là, le petit « mais », sous pression « mais ». Pas réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Et portant la mort de Jésus dans son corps, mais la vie également. Le petit mais, là, c'est quoi, là? C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu que ça représente. Le petit mais. Finalement, il va dire aussi, notre corps extérieur se détériore, mais il y a un renouvellement intérieur. Alors, la question que je me pose et je vous pose aussi ce matin, c'est la suivante. Si tu veux être fort, capable, sécure, accepté, confortable, est-ce que tu penses que tu vas voir la puissance de Dieu agir dans ta vie? Je ne pense pas, hein? Je ne pense pas. Et c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. Je veux être trop fort. Je veux être trop capable. Je veux être trop aimé. Je veux être trop sécur. Je veux être trop confortable. Trop capable tout seul. Toutes ces choses-là manifestent la puissance extraordinaire de Dieu. Ceux-là qui ne dénigraient pas, ils disaient pas, c'est un petit bonhomme, il a l'air de rien, il avait un handicap, c'est un sujet de controverse, c'était quoi son handicap, est-ce qu'il avait un problème des yeux, est-ce qu'il bégayait, on ne sait pas exactement, mais humainement parlant, Paul, là, c'était pas impressionnant. Mais quand il était présent, c'est la puissance de Dieu qui se manifestait. Il dit, je suis allé prêcher, là, chez vous, là. C'est pas les paroles humaines, non. C'est avec une manifestation de la puissance de Dieu. Et Paul faisait des miracles et il prêchait de telle façon que les gens se jetaient à genoux. Comment ça? C'est pas lui. C'est la puissance de Dieu en lui. Et malgré toutes ces difficultés, tous ces problèmes que Paul vivait, il persévérait. Adam, quelle était la source de la persévérance de Paul? Et c'est là qu'on vient plus dans notre sujet de l'espérance ce matin. Mais il fallait qu'on regarde un petit peu avant le ministère de Paul et de quoi il s'agissait pour mettre la table. Donc, la source de la persévérance de Paul est évidemment l'espérance. Regardez au verset 14 du chapitre 4, il dit ceci, il dit, « Nous aussi, nous croyons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Son espérance présentée, on va regarder maintenant une autre série de comparaisons frappantes qui explique sa persévérance. Ces comparaisons-là mettent en valeur, mettent en lumière l'espérance de Paul. Donc, à partir du verset 4, à partir du verset 16 du chapitre 4. Donc, Paul il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous avez ça? OK, good. Première comparaison frappante, Paul dit, les détresses présentes. Comment il les caractérise, ces détresses présentes-là? Il dit, sont légères et passagères. Les légères afflictions du moment, ou dans la version sommaire, c'est passagères. Du moment, passagères. Légères, passagères du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Donc, la gloire future, elle n'est pas passagère, elle est future, elle est éternelle et elle est pesante plutôt que légère. Paul vient d'affirmer au verset 14 qu'il possède avec certitude dans son cœur que Dieu le ressuscitera et le fera paraître avec eux en présence de Dieu. Jude nous dit dans le verset 24 de Jude, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse ou exultant de joie, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Dans Romains 8 aussi, Paul dit au verset 18, « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas touché par tes souffrances actuelles. Non, la Bible dit clairement que Dieu est un Dieu de consolation, que Dieu est touché par nos souffrances, que Dieu est un Père plein de compassion qui nous console dans toutes nos détresses. Mais un Père aussi qui nous rassure parce que ce qui s'en vient est tellement plus grandiose et beau de ce que nos souffrances actuelles le sont, que ça nous soulage, que ça nous console. Nos souffrances actuelles vont s'évaporer. Quand on est dans la souffrance, là, c'est dur, c'est long. Et c'est décourageant, pas vrai? Et tout ce qu'on voit, c'est la souffrance. Et même si c'est assez long, ça peut devenir même notre identité. On vit en fonction de notre souffrance. Mais cette souffrance-là, ma soeur, mon frère, un jour va s'évaporer. Va disparaître totalement comme un mauvais rêve. Avez-vous déjà rêvé, je suis sûr que vous l'avez fait, là, mais vous avez eu un rêve, là, que c'est tellement réel, là, que vous êtes sûr que c'est vrai, là. Puis c'est terrible, là, c'est effrayant, puis tu te lèves le matin, puis tu dis, oh, je suis soulagé, c'était juste un rêve, hein? Qui a déjà vécu ça? Pas mal tout le monde, hein? Bien, c'est ça que tu vas faire rendu au paradis. C'est exactement ça que la Bible dit qui va se passer quand tu vas être au paradis. C'est comme si tu vas te réveiller, puis tout ça, là, ça va être comme fini. Ça va être comme un mauvais rêve. Ça va être passé. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 25, 6 à 9. Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle arrosée de vin vieux et d'humain clarifié. Dieu, là, il va préparer lui-même le banquet et il déchirera là, sur cette montagne, la voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais. Et de tous les visages, le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes. Et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant, la honte pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. Wow! Et l'on dira en ce jour-là, « Voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions. Il nous a délivrés. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons, réjouissons-nous puisqu'il nous a sauvés. » Wow! Il déchirera là, sur la montagne, la voile de tristesse. Hein? Les gens... Même aujourd'hui, dans certaines cultures, quand, mettons, une veuve, là, perd son mari, madame perd son mari, elle porte un voile noir, puis elle se promène le restant de ses jours. On voit ça en Italie, là, quand on voit là. Dieu va déchirer le voile du deuil. Et il va faire disparaître la mort à tout jamais. Il va effacer toute larme. Il n'y aura plus de souvenirs des souffrances de cette terre. Il n'y en aura plus. Parce que si tu étais capable de te souvenir de ces souffrances-là, tu aurais encore de la peine. Mais ça va être comme un mauvais rêve. Ça va être comme, il me semble qu'il y a eu quelque chose, mais c'est fini. C'est fini. parlant de ceux qui sortiront de la période de la grande détresse, la tribulation qu'on appelle, l'ange dit à Jean dans Apocalypse 7. Parce que Jean dit, c'est qui ces gens-là, là, qui portent des robes blancs? Et l'ange dit, ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente, en sécurité. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. C'est des images pour parler de l'oppression, de parler de la persécution, de parler de la difficulté, les ardeurs de la vie. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Ah, il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Les détresses présentes, passagères et légères, comparées à la gloire pesante et éternelle à venir. Encore dans Apocalypse 21, 3, 4, « Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Disparu. Tes souffrances qui, aujourd'hui, t'accablent tellement, là, t'écrasent tellement, là, te causent tellement de problèmes. Un jour, là, vont disparaître, à tout jamais. Nous allons être dans la joie. La description dans Ésaïe 50 qu'on a lu tout à l'heure, Ésaïe 25, c'est la description d'un party. D'un party. Dieu va mettre la table et c'est marqué, nous allons jubiler devant Dieu. Nous allons danser. Nous allons être dans la joie. Exultant de joie, comme dit Jude. Ça va être comme la meilleure partie de famille que tu n'as jamais expérimentée, mais toutes les parties de ta vie que tu as aimées, là, les parties familiales, aux fêtes, mais tout ça ensemble, c'est rien à côté de ce party-là. Tu n'as jamais rien expérimenté de quoi de semblable. Ça va être mille fois plus palpitant et joyeux. On continue. L'espérance présentée par Paul ici, il dit que au verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. D'autres comparaisons. Et il dit, les choses visibles sont quoi? Ne dure qu'un temps. Éphémère. Et les choses invisibles sont éternelles. C'est bizarre, là, parce qu'on a de la difficulté avec ça, les êtres humains. Nous, on porte plus notre attention sur les choses visibles. Et on pense que c'est ça qui va durer. C'est ça qu'on peut toucher, on peut manipuler, on peut sentir, on peut manger, on peut boire. C'est des choses, on dit ça, c'est la réalité. Notre Paul nous dit non, ça là, ça va tout disparaître. Ce n'est que pour un temps. Oh! Mais les réalités invisibles, eux autres, là, ça c'est éternel. C'est comme, ça ne nous rentre pas dans la tête, ça. Mais c'est la vérité. La vérité de ton espérance, c'est que les choses matérielles vont disparaître complètement, mais les choses invisibles vont demeurer éternellement. Je pense que c'est Pierre qui dit, « Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, portez votre attention sur les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si c'est vrai, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, portez vos regards sur les choses d'en haut. Je crois honnêtement, frères et sœurs bien-aimés, écoutez, nous portons au contraire beaucoup trop d'attention sur les choses visibles, temporelles, nos maisons, nos habits. Là, je suis bien habillé ce matin, là, vous allez me dire, Brian, mais c'est pour honorer les femmes. OK? C'est pour honorer les mères ce matin que j'ai mis la cravate, le veston. Mais je ne m'exclus pas là-dedans, là. Maison, habits, nourriture, loisirs, émissions de télé, etc., etc., etc. On porte nos regards trop sur ces choses-là. Et l'enseignement de Paul, c'est arrête de porter tes regards sur ça. Porte tes regards, concentre-toi sur ce qui est à venir. C'est important. Et pourquoi? On va le voir. Ces choses invisibles, qui sont pourtant éternelles, qui sont à considérer, à étudier et à comprendre par l'entremise du Saint-Esprit. Ça prend l'aide du Saint-Esprit pour les contempler. Éphésiens 1. Je vous cite souvent cette prière-là. Je demande que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui possède la gloire, le Dieu de gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour vous, que vous connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance. C'est par révélation du Saint-Esprit, en étudiant la parole, en prière. C'est là, mais ça prend l'assistance du Saint-Esprit, mais ça prend ta bonne volonté aussi, là, et la mienne. Est-ce qu'on s'arrête à ça? C'est primordial. C'est un enjeu extrêmement important. Et je t'encourage à faire de cette prière-là dans Éphésiens chapitre 1, la tienne, adopte-la. Moi, je la fais tous les matins. Seigneur, je veux te connaître plus. Donne-moi sagesse et révélation dans ta connaissance, que je sache c'est quoi l'espérance. Et Paul continue dans ce passage-là. Et la richesse de la gloire de l'héritage qui tient en réserve pour tous les saints, ainsi que la puissance qu'il met à votre disposition, celle-là même qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Un autre contraste pour présenter l'espérance, Paul dit au chapitre 5 maintenant. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Il présente le corps terrestre qui est destructible versus le corps céleste qui est indestructible. Je vais lire dans la version sommaire. Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison ou une tente, mais que Dieu nous a préparée. Une habitation éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. En plus, il utilise deux images différentes. Il dit, le corps terrestre, c'est comme une tente. Une tente, c'est quoi? C'est une demeure temporaire. Mais il dit, en haut, c'est un édifice. C'est une image pour parler du corps que tu vas avoir. Et le corps terrestre est destructible, mais le corps céleste demeure éternellement. On l'avait vu ça la première fois dans le premier message, n'est-ce pas? Le corps est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il est semé méprisable, il y ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite fort. Le corps que tu habites maintenant est un corps qui a été affecté par le péché et par la sentence que Dieu a déclarée sur la terre lors de la révolte d'Adam et Ève. Ce corps-là est un corps qui se dégrade, comme on l'a vu, un corps aussi qui est indissociable de ton esprit et de ton âme, et qui répond toujours d'une façon comme favorable au péché. Ce corps-là est tenté vers le péché. Ce corps-là répond au péché. Okay? C'est sa tendance naturelle. Et Paul s'écrit dans Romains 7, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Hein? Fait que la vieille nature, là, qui tend vers le péché, est attachée à ce corps-là, est indissociable avec. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 50, on l'a vu, « La chair et le sang, le corps naturel, ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. » Ne peut pas. C'est-à-dire, si Dieu, là, en ce moment, si Dieu te télétransportait en sa présence, là, bang, ton corps, là, serait détruit. Ton corps ne pourrait pas résister à la sainteté de Dieu. Ton corps serait évaporé comme quelqu'un qui serait allé devant le soleil. Ton corps ne peut pas exister en présence de Dieu parce qu'il est entaché de péché. Il est indissocié de la nature pécheresse. Cela signifie que nos corps, dans l'état naturel qui se retrouvent et qui sont sujets à la corruption physique et morale et qui tendent à répondre instinctivement aux désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, ne peuvent aucunement survivre en la présence de Dieu. Donc, Dieu nous a préparé un nouveau corps qui est spirituel, céleste, qui est indestructible, qui est éternel, immortel et qui va nous permettre d'être en sa présence. En sa présence glorieuse, en fête. Et Paul dit ici que nous gémissons. Dans verset 2, 5, 2, vous êtes là? Car dans cette tente, nous gémissons. Qu'est-ce que ça veut dire gémir? Bien, ça veut dire exprimer sa souffrance d'une voix plaintive et inarticulée. Ça veut dire, oh, se lamenter, c'est ça, gémir. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, moi, j'ai gémi l'autre jour, j'étais chez Ferlac, je chargeais ma remorque de sac de terre. Puis en descendant de mon trailer sur ma rampe, crac, renverse ma cheville. Aïe, 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 j'ai manqué m'évanouir parce que ça avait tellement été fort, là, que je souffrais, je gémissais, là. C'est ça, gémir. Nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus ce corps, notre domicile, qui est de nature céleste. Hey, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris en étudiant pour le message ce matin. J'ai compris quelque chose de nouveau. Peut-être que je suis seul à avoir compris ça. Vous l'aviez déjà compris. Peut-être que j'étais juste en retard. Mais Paul qui dit ici, là, il dit dans ces versets-là que on va revêtir par-dessus notre corps le nouveau corps si nous sommes toujours dans ce corps. Regardez, il dit au verset 2, « Ainsi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Qu'est-ce que ça veut dire, « trouvés vêtus et non pas nus » Avant, je pensais que ça parlait du salut. Non, ça parle du corps. Vêtus, ça parle du corps. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la version sommaire, regardez ce qu'il dit. Si bien sûr, cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps et non pas dévêtus, tout nus. OK? Quand la mort nous en aura dépouillé, je relis. Si cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps et non quand la mort nous en aura dépouillé. À la mort, c'est quoi? C'est la séparation du corps avec l'âme et l'esprit, avec ta personne et ton âme, OK? C'est ça, la mort, la séparation. C'est pas normal, c'est à cause de la chute, OK? Fait que c'est t'es dévêtu, là, t'es nu, ton esprit est nu, OK? Si tu es au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe avec ton esprit à ce moment-là? Il s'en va en présence de Dieu, direct. Jésus dit au larron, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et on va le voir plus tard aussi, Paul dit la même chose. Fait que ton corps reste là, en terre, et ton esprit va à Dieu. OK? Bon. Mais si tu es toujours vivant au retour de Jésus-Christ, tu es toujours vêtu de ton corps, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas revêtir le nouveau corps par-dessus ton corps, parce que tu n'en as pas été séparé. Regardez ce qu'il dit au verset 4. Tandis que nous sommes dans cette tente, ce corps terrestre, nous gémissons, nous lamentons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller de ce corps-là, mais nous revêtir de nouveau, afin que le mortel soit englouti par la vie. Dans la version sommaire, je vous le lis. Écoutez, en effet, nous vivons dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir de notre corps, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est un peu comme quand je vais au bloc opératoire, je me change. On a des casiers, je me dévêt, j'enlève tous mes vêtements, et là, je mets des nouveaux vêtements, hein, des scrubs qu'on appelle, ou des... je sais pas c'est quoi le mot en français, finalement. Hein? Un sarrau. Ben, c'est pas exactement un sarrau, mais c'est des pantalons verts puis un haut vert. Hein? Vous savez de quoi je parle? Mais... Hein? Une chienne. Non, non, non. C'est deux morceaux séparés. Si j'enlève mes vêtements, je mets ces deux morceaux. Mais si, mettons, je suis pressé, c'est une grosse urgence, ça. Je ne me dévêtis pas, là. Je me mets une chienne ou un coverall par-dessus. Et mes vêtements, là, qui sont en dessous, disparaissent. C'est ça que Paul dit ici. Si tu es vivant lorsque Jésus revient, tu vas revêtir ton nouveau corps sans passer par la mort et ton corps actuel va être englouti dans le nouveau. Il va être absorbé, il va disparaître dans le nouveau corps. C'est ce que Paul enseigne. Ça concorde avec ce que Paul enseigne dans Romains et dans 1 Thessaloniciens. Et dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. » La mort, c'est quoi? C'est la séparation du corps avec l'âme et l'esprit. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront, c'est leur corps, pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible, regarde ce qu'il dit, doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Paul dit dans Romains 8, « Nous le savons bien en effet que jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement, dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. » Et Paul dit ici que nous avons comme preuve que cela va arriver, au verset 5, « Et celui qui nous a formés pour cela nous a donné les arts de l'Esprit. » Bon, et le temps avance, là. On va devoir accélérer. Le dernier point, qu'est-ce que l'espérance produit dans le cœur de Paul? Ça produit le courage de poursuivre la mission. Regardez verset 16 du chapitre 4. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Et il parle de la résurrection tout de suite après. Verset 6 du chapitre 5. Nous sommes donc toujours pleins de confiance ou de courage. Verset 8, encore. Nous sommes pleins de confiance ou de courage. L'espérance, qu'est-ce que ça fait? Quelle différence que ça fait dans ta vie? On l'a posé la question au début. C'est que ça donne le courage de continuer. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas le regard sur l'espérance à venir. Ils sont accablés par les choses du moment présent. Il n'y a pas de courage. Courage, mais pas juste courage en général. C'est le courage de vivre pour Christ, le courage d'accomplir la mission. Si on est là, c'est pour ça. Et ça prend du courage. Ça en prend du courage. Le secret du courage de Paul était ancré dans l'espérance qui l'habitait. C'est comme un marathonien qui voit la ligne d'arrivée. Hein? Qu'est-ce qui se passe qu'un marathonien voit la ligne d'arrivée? Il y a un regain d'énergie, là. Il y a du courage. J'arrive, là. C'est ça. Hein? Il n'a pas envie d'abandonner à ce moment-là. J'ai réussi jusque-là. Je vais le faire. Je vais y aller. Hein? Ou bien le cheval qui sent l'écurie. Avez-vous déjà entendu ça, cette expression-là? Le cheval qui sent l'écurie. Peut-être Jean-Claude, il pourrait nous l'expliquer, mais je pense que quand le cheval sentait, il revenait à la maison, quand il sentait la maison, l'écurie, il accélérait. Et nous, on l'utilise en voyage vélo, là, quand on a fait 100 km, puis que là, on arrive proche de la ville, puis on pense à l'hôtel, puis la bière, puis la piscine qui s'en vient. On dit, ah, le cheval sent l'écurie. Parce que les gens accélèrent, là. Les gens accélèrent, là. Le courage de poursuivre la mission. Ensuite, qu'est-ce que ça donne? Regardez au verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Une ambition renouvelée pour plaire au Seigneur en tout. C'est ce que l'espérance va produire dans ta vie si tu y attardes comme Paul. Si tu demandes comme Paul de te le révéler, si tu portes ton regard vers ces choses-là, tu vas avoir une ambition renouvelée à plaire au Seigneur en toutes choses parce qu'on s'en va voir le Seigneur. Et il va avoir un tribunal, non pas de jugement pour la vie et la mort, mais pour évaluer. Un tribunal pour évaluer ta vie. Ce n'est pas une source d'inquiétude, parce que je dis, il va vous faire paraître en sa présence quoi? Irréprochable et exultant de joie. Donc, ce n'est pas un tribunal pour te juger, c'est un tribunal pour juger de la valeur, juger de la récompense que tu vas recevoir. Et tu auras une récompense. Tous auront des récompenses, à moins que Paul dit, comme celui qui est sauvé à travers le feu, qui n'a pas poursuivi du tout, du tout, du tout. Nous paraîtrons devant lui pour nous faire évaluer, et irréprochable et exultant de joie. N'oubliez pas ça, mes frères et sœurs. Et ça nous motive pour lui plaire dans le présent, ici, maintenant, dans les circonstances qu'il a permises dans nos vies. Donc, porter ton attention sur l'espérance d'un corps ressuscité transformé produira courage et une plus grande ambition à plaire au Seigneur dans le présent. On va terminer avec un chant qui est nouveau pour plusieurs d'entre vous. C'est « Garde courage ».